Bonjour, Dr. Quash.
Bonjour.
La première priorité, le groupe prioritaire, ça bouge pas, c'est-à-dire le personnel de la santé qui est en première ligne, tous les résidents des foyers de longue durée, les adultes de 70 ans et plus, les communautés autochtones, ça reste prioritaire. Mais dans le deuxième groupe, là, vous avez dit il faudrait rajouter les communautés racialisées et marginalisées. D'abord, de qui on parle?
Bien, on parle de tous ceux qui ont souffert énormément de la pandémie depuis la première vague. Donc, les communautés, les nouveaux arrivants dans les populations marginalisées, ça peut faire partie, tu sais, des sans-abri, par exemple. Tous ces gens-là qui, si on les nomme pas, pourraient passer entre les mailles du filet et qui ont payé le lot de complications et de maladies de la COVID depuis le début.
Alors, on parle de par exemple, est-ce qu'on parle des populations de descendance ou d'origine haïtienne de Montréal-Nord, par exemple?
Tout à fait. On a vu au cours de la première vague, puis même encore maintenant, une incidence beaucoup plus grande d'infection dans ces communautés-là parce que ce sont eux qui sont aux premières lignes comme travailleurs de la santé. Donc, ceux-là sont vaccinés, évidemment. On leur a offert déjà la vaccination. Souvent, ils étaient en CHSLD. Mais on veut s'assurer que les gens autour d'eux aussi puissent en bénéficier. Je ne sais pas si vous aviez vu là aux États-Unis quand ils ont commencé à déployer leur programme de vaccination puis qu'ils ont essayé justement d'aller chercher ces communautés-là en identifiant les espèces de zones, les hotspots. Là.
Oui.
Ils ont mis des cliniques de vaccination dans des quartiers à haute proportion de nouveaux immigrants et de nouveaux arrivants. Et malgré tout, les Blancs des quartiers avoisinants sont venus faire la file et en bout de ligne, il y avait plus de Blancs qui se sont fait vacciner que des gens de ces quartiers-là qu'on essayait d'aller vacciner pour les protéger.
Alors, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique de la part de certaines communautés racialisées, comme on les appelle, de contracter le virus ou est-ce que c'est les conditions sociales dans lesquelles ils vivent qui les prédisposent à le contracter?
Je vous dirais que le gros, ça semble être les conditions sociales. Ceci dit, il y a eu quelques papiers qui sont sortis là, qui identifiaient certains marqueurs génétiques qui étaient plus souvent retrouvés dans les populations du sud asiatique. Mais pour le reste, on n'a pas encore réussi à mettre le doigt sur un facteur génétique clair là, en termes de complications. Mais je pense que c'est vraiment par ce qu'ils font. Donc, ils sont exposés à des charges virales beaucoup plus grandes. Ils sont aux premières lignes des soins pour la COVID et donc ont été davantage exposés et donc méritent d'être protégés de façon prioritaire.
Où ils vivent dans des logements où ils sont nombreux à vivre dans le même logement? Est-ce que le surpeuplement, oui, la surpopulation peut contribuer à poser la question, c'est-il répondre?
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Parce que ce sont des maisons multigénérationnelles qui ne sont pas habituellement si grandes que ça, un peu comme les communautés autochtones. Là, quand il y a une infection qui rentre, ça se propage beaucoup mieux que quand on est dans une grande maison où chacun a deux chambres à coucher à peu près par personne et trois salles de bain. Là, c'est sûr que ça n'a rien à voir.
Alors, les communautés autochtones restent dans le premier groupe. Dans leur cas, à elles, est-ce que c'est une prédisposition génétique? Est-ce que, par exemple, le fait qu'il y a davantage de problèmes de diabète dans les communautés autochtones, est-ce que ça, c'est un facteur prédisposant, là?
Oui, ça, c'est un facteur de risque. C'est pas génétique, nécessairement, mais parce que les communautés autochtones ont tendance à avoir davantage de conditions médicales sous-jacentes qui les mettent à risque d'infection et de complications, surtout, et parce que, encore une fois, les déterminants sociaux les mettent plus à risque de complications. Puis souvent, ils habitent dans des communautés éloignées où un transfert vers un hôpital est beaucoup plus complexe, où il y a à peu près pas de capacité à les traiter là où ils sont. Ça vaut la peine là, de les protéger aussi.
Bon, alors, j'ai donné la définition du premier groupe tout à l'heure. Là, le deuxième groupe, si je résumais, ce sont donc les personnes de 60 à 69 ans. Ça, c'est le deuxième groupe priorisé. Là. Ensuite de ça, on l'a dit, les adultes racialisés. Les travailleurs essentiels, les travailleurs essentiels de première ligne qui ne peuvent pas travailler à distance. Par exemple, les personnes qui travaillent à la caisse dans les épiceries, dans les dépanneurs, ou encore les chauffeurs d'autobus vont se retrouver dans le deuxième groupe priorisé. Les refuges pour sans-abri également, les prisons aussi. Vous savez, Dr Quach, qu'il y a eu des critiques, oui. Il y a des gens qui ont dit, franchement, ça n'a pas de bon sens de prioriser des prisonniers avant des citoyens, les citoyens, mettons, de moins de 60 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, je réponds à ça que j'entends ce que les gens disent, mais en même temps, quand on est un citoyen et qu'on a la possibilité de se protéger, soit par le port de masque, la distanciation, on est chacun chez soi, ce qui est impossible pour un prisonnier. Je comprends tout ce qui vient avec, là, mais on regarde le risque d'infection dans ces milieux-là. On ne pose aucun jugement sur la personne qui est impliquée dans ce milieu-là, mais on sait qu'il y a eu des éclosions en milieu carcéral, à la fois pour les prisonniers, mais pour les gens qui sont les gardiens aussi, qui sont sur place.
Oui.
C'est une question... il faut juste réaliser que quand on a fait ces priorités-là, on n'a porté aucun jugement sur la valeur d'une personne. On a regardé de façon très objective où avaient lieu les éclosions, qui étaient à risque de complications, en gardant en tête que l'objectif de la vaccination, c'est de protéger les plus vulnérables et de limiter les interruptions sociales. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on en est venu avec les trois étapes, là.
Mm-hmm.
Et je vous dirais que dans les travailleurs essentiels de première ligne, pour moi, les professeurs sont là aussi. Ceux qui s'occupent de nos enfants tous les jours, là, qui peuvent clairement pas le faire virtuellement, en font partie.
OK, donc les professeurs, les enseignants, enseignantes seraient dans le deuxième groupe. Une fois qu'on a vacciné, ça c'est intéressant. Et le troisième groupe, ben essentiellement, c'est les 16-59 ans, là, c'est tous les autres, 16-59 ans.
Non, c'est pas tous les autres.
Non?
Les 16 à 59 ans, c'est ceux qui ont un problème médical sous-jacent. Tous les autres, ils viennent après ce stade, cette étape-là.
Alors, il y a une quatrième étape? Il y a un quatrième groupe?
Ben, oui, si vous allez sur la droite, là, c'est écrit « toute autre population pour lesquelles les vaccins sont sécuritaires et efficaces ». Donc, une fois qu'on a priorisé tout ce monde-là, le 49 ans qui est en parfaite santé, c'est malheureux, mais il tombe après ces groupes à risque-là. Mais là, aussitôt qu'on a une condition médicale sous-jacente, on essaie de les prioriser. C'est juste encore une fois pour être capable de les identifier et s'assurer que ces gens-là aillent se faire vacciner.
Évidemment, quand on décide, j'en reviens aux communautés marginalisées, racialisées, veut pas, Caroline Quach, il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire « Bon, mais c'est ça, c'est Montréal, évidemment, qui va être priorisé. C'est Montréal qui va... » Puis d'ailleurs, on le sait, depuis la semaine dernière, le gouvernement a pris la décision d'envoyer plus de vaccins à Montréal. C'est une décision qui est confirmée aujourd'hui. Là, je vois ça dans le papier de Fanny Lévesque aujourd'hui. Là, Montréal qui va recevoir 37% des doses de vaccins, alors qu'elle reçoit habituellement 31% des doses. Donc, ça veut dire 14 000 doses de plus qu'habituellement. Qu'est-ce que vous répondez, Dr Quach, aux gens qui vont dire « Bon, Montréal encore au détriment des régions puis au détriment des zones, des périphéries autour ».
Mais je veux juste faire une petite précision, c'est-à-dire que les recommandations qui sont là sont des recommandations fédérales. Il faut réaliser que chacune des provinces réadapte ces recommandations-là à la sauce locale en considérant l'épidémiologie, les facteurs de risque, puis le déploiement de la campagne de vaccination. Québec a déjà fait sa priorisation qui ne parle pas de groupes racialisés et marginalisés. Là, si vous retournez sur le site de l'INSPQ, vous verrez que ça n'est pas là. Maintenant, Montréal, oui, le 37% de doses, c'était pas parce qu'il y avait des populations marginalisées ou racialisées, c'est parce que c'est ici qu'il y a quand même plus de transmission qu'ailleurs. Même si on peut livrer les doses au prorata de la population locale, n'empêche que, par exemple, quand je regarde les travailleurs de la santé, ils habitent peut-être tous à Laval et sur la rive sud, mais ils travaillent à Montréal. Et là où ils ont besoin d'être vaccinés, c'est dans leur milieu de travail. Donc, il y a eu des inéquités comme ça où les hôpitaux à l'extérieur de Montréal recevaient des doses au prorata de leur population, mais ils avaient moins d'employés que dans les hôpitaux à Montréal et ça ne marchait pas, là. Donc, je pense qu'il y a un ajustement qui est en train de se faire, puis c'est correct. Je pense que tout le monde va finir par être vacciné si on peut avoir les doses qui nous sont promises. C'est pas Montréal contre les autres.
De la même manière que c'est pas les gens racialisés des communautés ethnoculturelles contre les autres.
Pas du tout.
Mais il y a des gens qui vont le penser, Dr Quach. Il y a des gens qui vont dire,
bon... Vous savez quoi? J'ai reçu un courriel à ce sujet-là ce matin d'une anglophone que je ne connais pas, qui m'a dit, écoutez, êtes-vous en train d'essayer de créer une lutte entre les races au Canada? Puis j'ai évidemment pas répondu, mais pour
entre
moi...
Les blancs et les non-blancs. Hein? Non, mais il y en a qui vont le penser, oui. Caroline.
Ben, je l'entends parce que moi, ça faisait pas partie de ma réflexion. L'idée, c'est pas de dire les blancs versus les autres, c'est de dire assurez-vous, quand vous déployez un programme de vaccination, que les communautés racialisées et marginalisées ne sont pas oubliées. Et il va falloir souvent mettre en place des stratégies de vaccination qui sont différentes pour aller les rejoindre. C'est pas de dire ah toi t'es blanc, je te vaccine pas. C'est de dire quand je vais dans un quartier où il y a une plus grande proportion de population racialisée et marginalisée, il faut que je m'assure d'être capable d'aller les rejoindre. Là, c'est pas en mettant un message en français sur l'Internet que nécessairement ils vont réaliser que ça s'adresse à eux. Donc, tu sais, tout le travail que le groupe Access, entre autres, fait avec les communautés culturelles, je pense que ça devient hyper important.
Oui, mais Dr. Couache, les gens vont dire c'est pas une question de les défavoriser. C'est dans ce cas-ci, c'est de les favoriser. Ils passent avant les autres. Ils vont dire, ben, ils n'ont pas raison, ça devrait pas, tout le monde devrait être égal. La raison pour laquelle vous les priorisez, en un mot, c'est quoi?
Ben, c'est parce que c'est quand on regarde, encore une fois, l'incidence des infections de la COVID depuis le début, c'est quand même eux qui en ont souffert le plus. Et donc, on essaie de remettre sur, de redonner une certaine équité à l'ensemble de la population.
D'accord. Docteur Caroline Couache, microbiologiste, infectiologue, pédiatre et épidémiologiste. Merci beaucoup, Docteur Couache. Bonne chance dans chez Pop.
Merci. Au revoir.